France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. La Russie ne veut rien négocier avec l'Ukraine. Moscou exige que Kiev accepte ses conditions. Le Kremlin multiplie les bombardements et les menaces alors que de nouvelles discussions ont commencé à Abu Dhabi. Moscou mise en cause aussi par l'Italie. Le gouvernement italien attribue aux Russes une série de cyberattaques juste avant le début des Jeux Olympiques de Milan-Cortina. La France a peut-être réussi à se débarrasser de la dermatose nodulaire. Aucun nouveau cas depuis un mois dans les troupeaux de bovins. Emmanuel Macron en profite pour suggérer le retour des vaches au prochain salon de l'agriculture. Mais les éleveurs ne sont pas d'accord. Le dossier de ce journal consacré au prestigieux mobilier national qui s'ouvre à la création contemporaine. 60 objets réalisés par des designers rejoignent les collections de l'institution. La Russie ne retient plus ses coups contre l'Ukraine. Après avoir observé une mini-trêve à la demande de Donald Trump, les forces russes ont repris leurs frappes contre des cibles civiles. Encore 7 morts et 15 blessés aujourd'hui dans un bombardement sur un marché de Druivka dans l'est du pays, non loin de la ligne de front. La Russie toujours plus féroce alors qu'un nouveau cycle de négociations a repris aujourd'hui à Abu Dhabi. Sous l'égide des Américains qui se disent très optimistes après les premières discussions. Mais que reste-t-il à négocier avec Moscou? Le Kremlin a répété ce matin que son offensive en Ukraine se poursuivrait tant que Kiev n'accepterait pas ses conditions. Élément de réponse avec Virginie Pironon.
C'est à chaque fois ou presque le même schéma. Face à la pression de Donald Trump, aucune des deux parties ne veut passer pour celle qui refuserait de négocier. D'où, selon certains observateurs, les déclarations du Kremlin pour qui l'exercice consiste à ne pas froisser le chef de la Maison-Blanche tout en continuant à faire pression sur Kiev pour forcer l'Ukraine à accepter ses conditions maximalistes. Exactement ce qu'a fait son porte-parole ce matin en assurant, je cite, que l'opération militaire spéciale se poursuivra tant que le régime de Kiev n'aura pas pris la décision appropriée. Après un échange avec Donald Trump, Vladimir Poutine avait affirmé avoir accepté une trêve de quelques jours la semaine dernière. Mais malgré cette annonce et les négociations en cours, les frappes russes en réalité n'ont jamais cessé, visant par exemple un train de civils la semaine dernière, 5 morts dans la région de Kharkiv, des mineurs dans leur bus dimanche, 15 personnes décédées près de Pavlograd. Enfin, dans la nuit de lundi à mardi, Moscou a lancé sa plus grande attaque depuis le début de l'année. Alors comment négocier dans ces conditions? Kiev assure ce soir que les discussions ont été substantielles et productives, mais d'après certains experts, le processus est dans une impasse. Selon eux, Donald Trump s'est trompé en renonçant lors de ses discussions avec Vladimir Poutine, comme en Alaska l'été dernier, de négocier un véritable cessez-le-feu. Pour un représentant politique à Kiev, la pire erreur que peuvent commettre les diplomates, c'est d'accepter de jouer selon des règles imposées par Moscou.
Virginie Pironon de la rédaction internationale de Radio France. « Je veux qu'ils mettent fin à la guerre », avait déclaré hier soir Donald Trump à l'adresse de Vladimir Poutine, le président américain qui s'est bien gardé de condamner les dernières frappes russes sur les civils ukrainiens. La Russie pointée du doigt par l'Italie, et cela à 2 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. On retrouve à Rome Bruno Duvic, bonsoir.
Bonsoir.
Bruno, l'Italie a été visée ces derniers jours par des cyberattaques, c'est ce qu'a révélé aujourd'hui le ministre italien des Affaires étrangères.
Elles ont touché des bureaux diplomatiques italiens, notamment à Washington, ainsi que des sites directement liés au JO, dont Cortina d'Ampezzo. Voilà les quelques informations données par le ministre Antonio Tajani en déplacement aux États-Unis. Actions d'origine russe, précise-t-il, sans en donner le nombre, et qui ont été déjouées. Autrement dit, pas de fuite de données, selon Rome. La presse italienne croit savoir que parmi les cibles, il y avait un site diplomatique à Paris. À ce stade, on ne confirme pas à l'ambassade d'Italie en France. Visait aussi plusieurs hôtels de luxe de Cortina. Pour l'un de ces établissements, il y a un communiqué de revendication signé par le groupe No Name. Dans le texte, les hackers font allusion au soutien de l'Italie à l'Ukraine et aux divisions de la coalition au pouvoir sur ce point. C'est une pierre dans le jardin d'un des partis de la coalition, la Ligue, pourtant souverainiste, mais complaisante avec la Russie de Poutine.
Et ces cyberattaques, Bruno, surviennent dans un climat déjà tendu en Italie.
Une manifestation qui a donné lieu à des actes de grande violence samedi dernier à Turin. Plus de 100 policiers ont été blessés. La controverse sur la présence de l'ICE, la police de l'immigration américaine, même si le gouvernement assure que ne seront présents que des analystes pour de l'échange d'informations, pas d'agents sur le terrain. C'est vrai que le climat n'est pas pleinement serein, alors que le vice-président américain J.D. Vance et la flamme olympique arrivent demain à Milan.
Bruno Duvic, correspondant de France Culture à Rome. L'état de santé de l'enseignante poignardée hier à Sanary-sur-Mer dans le Var reste préoccupant ce soir. La professeure d'art plastique a subi une première intervention chirurgicale dans la soirée à Toulon. Son agresseur, l'un de ses élèves, est toujours en garde à vue pour tentative d'assassinat. Ce garçon de 14 ans a reconnu devant les enquêteurs qu'il avait prémédité son geste, car, dit-il, il avait trop de haine contre l'enseignante. Elle aurait consigné plusieurs incidents le concernant sur l'application Pronote, le logiciel de la vie scolaire. Ce drame a relancé le débat en France sur la violence à l'école. Comment empêcher que des élèves dissimulent dans leurs affaires des couteaux? Au Royaume-Uni, où les infractions liées aux armes blanches ont augmenté de 80% depuis 10 ans, les autorités ont mis en place des portiques de sécurité à l'entrée des établissements scolaires. Mais la réponse n'a pas été uniquement sécuritaire. Exemple dans un lycée du sud de Londres avec ce reportage de Gaël Joly.
Dans ce collège-lycée de Greenwich, qui compte plus de 2000 élèves, le proviseur Jeff Osborne a fait installer il y a quelques années des tourniquets et un détecteur de métal à l'entrée.
Il y a des problèmes dans le quartier, violence au couteau, drogue. Un étudiant a été agressé au couteau à 100 mètres de l'entrée. Heureusement, nos équipes étaient là, ce sont des secouristes formés. On lui a probablement sauvé la vie, mais on ne peut pas contrôler ce qui se passe hors du site.
Alors au-delà de ces portiques de sécurité, le proviseur a mis en place une pédagogie beaucoup plus large à l'intérieur de l'établissement.
On travaille beaucoup avec eux pour les aider à rester en sécurité aussi dehors. On a une équipe d'engagement, une quinzaine de personnes dont le rôle est de créer des relations avec les jeunes.
Hi, how you doing? Okay? Did you go to your appointment?
I did.
Fantastic. Excellent. We don't ever get aggressive.
On n'est pas une école où on crie ou on sanctionne. On explique, parce qu'une seule mauvaise décision peut t'envoyer en prison et ruiner ta vie.
À Londres, le nombre d'homicides impliquant des jeunes de moins de 25 ans a fortement diminué, a fait savoir il y a quelques jours le maire de Londres, avec seulement 18 cas l'an dernier, le chiffre le plus bas depuis 2012 dans la capitale.
Gaëlle Joly, correspondante au Royaume-Uni. L'épidémie de dermatose nodulaire est-elle terminée en France ? Cela fait un mois qu'il n'y a pas eu de nouveau cas de cette maladie bovine. La dermatose qui a mis dans la rue des milliers d'agriculteurs en colère contre le protocole sanitaire qui prévoit l'abattage de tout le troupeau pour une seule bête malade. Bonsoir Catherine Pétillon.
Bonsoir Stanislas.
Catherine, quatre sénateurs mandatés pour faire un premier bilan de la crise de la dermatose ont rendu leur rapport aujourd'hui et ils appellent à prendre des mesures pour éviter le retour de la maladie.
Oui, il commence par réaffirmer le consensus scientifique sur l'efficacité du protocole sanitaire qui allie l'abattage total des troupeaux dès qu'un cas est recensé, des mesures de biosécurité, la vaccination dans les zones à proximité et l'interdiction des mouvements d'animaux. Efficacité dès lors que le protocole est bien appliqué. Et c'est là que le bât blesse, reconnaît la mission. Il est évident que compte tenu des distances entre les foyers, la diffusion de la maladie est en partie liée à des mouvements illicites de bovins. Les rapporteurs appellent à la responsabilité de chaque éleveur, mais préconisent aussi de renforcer le contrôle des mouvements dans une zone de 5 km autour des foyers et d'améliorer la veille et le renseignement pour renforcer leur efficacité. Sur l'élargissement de la vaccination à l'ensemble du territoire, réclamé par certains syndicats agricoles, les parlementaires estiment que le coût est trop important et que le bénéfice risque est défavorable puisque la France perdrait le statut indemne lui permettant d'exporter. Ils soulignent toutefois l'urgence à anticiper le déploiement de la revaccination au printemps dans les zones à risque, puisque la vaccination est efficace environ un an. Cela pourrait être discuté lors de la prochaine réunion du Parlement de l'élevage qui se tient lundi prochain.
Et Catherine, avec l'amélioration de la situation sur le front de la dermatose, Emmanuel Macron aimerait bien voir des vaches au Salon de l'agriculture à la fin du mois. Hier, en Haute-Saône, le président a appelé les éleveurs à étudier la question.
Oui, le président de la République a invité des éleveurs à regarder s'il y avait des flexibilités possibles pour que les vaches soient finalement présentes au salon. En janvier dernier, les organismes de sélection qui représentent les races bovines françaises ont décidé de ne pas envoyer de bovins étant donné les risques. Alors en théorie, chaque organisme a la liberté de choisir ce qu'il fait, encore maintenant, mais c'est désormais trop tard, estimé aujourd'hui chez nos confrères de France Inter, le représentant de Race de France, qui rassemble une trentaine d'organismes de sélection. Il souligne la contradiction entre la rigidité du protocole sanitaire, qui demande de l'anticipation et de longues vérifications sur l'état de santé des bêtes, et cet appel du président à la flexibilité.
Catherine Pétillon, merci. Le Salon de l'agriculture qui se tiendra du 21 février au 1er mars prochain, porte de Versailles à Paris. L'Office central de lutte contre le travail illégal vient de démanteler une vaste fraude aux cotisations sociales. La gendarmerie évalue le préjudice à près de 9 millions d'euros. Tout a commencé en 2025 à Amiens, quand des salariés d'une société de travail temporaire ont découvert qu'ils n'étaient pas déclarés. Ils s'étaient simplement renseignés auprès de la caisse d'allocations familiales. Les explications d'Anne Fauquemberg.
Quand ces salariés se rendent compte qu'ils ne sont pas déclarés, ils signalent ces faits à l'URSSAF. L'organisme gouvernemental constate alors qu'aucune déclaration sociale n'a été faite pour quasiment 1000 personnes rémunérées par cette entreprise amiénoise de travail temporaire. Et c'est ainsi que l'OCLTI, l'Office central de lutte contre le travail illégal, est saisi. Les premières investigations permettent de découvrir l'organisation d'une vaste fraude sociale via une société écran, comme le précise Erwan Coiffard, le porte-parole de la gendarmerie.
Sous le couvert d'une société, les personnes qui ont été interpellées dans cette affaire avaient démarché des entreprises qui relevaient de secteurs en tension. Ils profitaient de cette tension pour offrir aux différents entrepreneurs d'échapper au paiement des cotisations sociales. Pour cela, ils embauchaient les salariés dans des sociétés de travail temporaire frauduleuses en garantissant que les salariés continueront à travailler à leur poste. Mais ces sociétés facturaient ensuite aux entreprises des prestations qui étaient réalisées par les salariés sans déclarer auprès de l'URSSAF les salaires versés. Voilà, donc les salariés avaient une illusion d'être déclarés avec de faux bulletins de salaire qui leur ont été remis. Et les déclarations n'étaient pas réalisées auprès de l'URSSAF.
Cette fraude a été orchestrée par deux individus résidant à Beauvais, poursuit Erwan Coiffard. Mais des complices ont été identifiés dans le département du Var, notamment. Par ailleurs, les investigations ont révélé que les sommes détournées étaient investies dans l'immobilier à l'étranger, notamment en Thaïlande et au Maroc. À l'issue des gardes à vue, quatre personnes ont été mises en examen et l'une d'elles a été placée en détention provisoire. Au total, près de 2000 salariés auraient été abusés pour plus de 8 900 000 euros de manque à gagner en cotisation.
Anne Fauquemberg, cette affaire intervient au moment où l'Assemblée s'apprête à examiner un projet de loi contre les fraudes sociales et fiscales à partir du 24 février. Le vapotage reste une bonne solution pour en finir avec le tabac, mais l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, met en garde contre les risques liés à la cigarette électronique. Il y a aujourd'hui en France plus de 3 millions de vapoteurs. Tara Schlegel, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Pour son avis rendu aujourd'hui, les experts de l'ANSES ont épluché près de 3000 études scientifiques sur le vapotage.
Comme le résume l'ANSES, le vapotage n'est pas sans risque. Même si on connaît insuffisamment ses effets sur le long terme, les experts affirment déjà que la cigarette électronique est liée à la survenue probable d'effets cardiovasculaires. Probable, c'est le niveau le plus fort de preuves trouvées dans ce rapport. 6 essais cliniques, 5 études transversales, une étude de cohorte ont montré en particulier donc une altération probable de la fonction endothéliale. C'est un mécanisme qui protège normalement la paroi des vaisseaux sanguins et s'il dysfonctionne, ça favorise les accidents cardiaques. Les études notent aussi une augmentation de la pression sanguine. Mais, souligne l'ANSES, il faut distinguer ces risques temporaires des maladies chroniques comme l'hypertension artérielle. Cette pathologie chronique se mesure dans le temps. Or, pour la e-cigarette, on manque de recul. Deuxième axe, et deuxième risque, le risque cancérogène. Là encore, aucune étude ne montre un lien entre vapotage et tumeur, même chez le rat et la souris exposés. Les experts parlent de signes évocateurs, mais pas de causalité. En revanche, on voit clairement les effets mutagènes sur l'ADN. Le rapport parle de survenue possible, cette fois, et non probable, de ces mutations qui sont, je cite, compatibles avec les premières étapes de la formation d'un cancer. On note le vocabulaire prudent de l'ANSES, mais en substance, cela signifie que que même si on ne peut pas le prouver aujourd'hui, on voit des marqueurs qui souvent sont associés à la survenue de tumeurs. Troisième danger évoqué, il concerne les enfants à naître, donc les femmes enceintes vapoteuses. Chez l'animal, toujours, on a vu des malformations de cellules cardiaques, des malformations également des poumons. Les experts parlent d'effets délétères possibles. Et l'ANSES se demande si des études pour mesurer l'impact réel sur les nourrissons ne seraient pas indispensables. En résumé, Stanislas, prudence, surtout pour les jeunes qui ne devraient jamais, dit l'agence, se mettre à vapoter.
Merci Tara Schlegel, spécialiste des questions de santé à la rédaction de France Culture. Le dossier de ce journal est consacré aux nouvelles acquisitions du mobilier national qui marque un tournant pour la prestigieuse institution. 60 objets signés par des designers contemporains, fauteuils, tables, consoles ou lampe, opération rendue possible par un processus relativement récent qui complète l'essentiel des acquisitions, environ 800 pièces par an. De quoi dynamiser le mobilier national, désormais intégré dans les manufactures nationales. Et c'est aussi une mise en lumière de la création et des métiers d'art. C'est un reportage d'Éric Chavreau.
Je suis très heureux de vous accueillir pour cette cinquième édition de nos acquisitions spéciales, création.
C'est du haut d'une échelle sur roulette bleue, au milieu de l'immense salle du mobilier national qui conserve les meubles historiques des palais de la République, que son directeur, Hervé Lemoine, s'adresse ce matin-là aux heureux 39 designers distingués.
Alors, la particularité, c'est que, et vous l'avez sans doute remarqué, il y a déjà beaucoup plus de pièces de céramique, qui peuvent d'ailleurs prendre des formes très différentes, ce qui correspond évidemment à l'élargissement de notre établissement à la manufacture de Sèvres. Et nous cherchons, de la même façon que nous le faisons avec le mobilier, nous cherchons à promouvoir, là aussi, la création dans le domaine de la céramique.
En témoignent le paravent et la lampe de l'artiste Steven Koefik, 34 ans, retenu par le jury, acheté sur devis et désormais bien inaliénable.
Et cette lampe, elle a une particularité, c'est qu'elle s'allume et s'éteint en déplaçant un palais en céramique. Le but ici, c'était un peu de faire du low-tech, donc une manière très mécanique d'allumer la lumière et aussi une manière différente. J'essaie d'amener ce que j'appelle la distraction fonctionnelle. C'est un petit moment de distraction dans ce moment où on utilise un objet au quotidien, une poignée de porte, un interrupteur. Ici, c'est le poids qui allume la lumière. C'est un peu donnant-donnant. Je pose mon portable sur l'objet et c'est lui qui va allumer la lumière. Ça peut être un livre, une petite figurine qu'on aime bien ou ce palais en céramique qui va avec.
Preuve du succès grandissant de cette campagne d'acquisition née lors du Covid, un peu plus de 500 meubles ont été proposés et sur la base d'un budget de 252 000 euros, à moitié abondé par une compagnie d'assurance, 14 professionnels du secteur comme Elana Ishbia ont forgé ce que cette directrice de création d'un studio qualifie d'instantané de l'époque.
Ce qui se dégage, c'est une sorte d'écriture assez radicale, une géométrie plutôt simple, d'aller vers des formes brutes, des matériaux plutôt naturels, le retour du bois, enfin, des expérimentations. Par exemple, le studio Quiproquo qui travaille des lampes avec du recyclage d'écrans LED. Je suis assez fière que ces lampes soient aujourd'hui dans les collections du mobilier national puisqu'on est vraiment dans une recherche de recyclage et pourtant, c'est un objet qui n'a pas l'air d'être une lampe recyclée, qui a vraiment une écriture.
Recyclage et réinterprétation aussi, y compris familial, avec Alexia Leleu, de nouveau sélectionnée pour une console, après une première en 2021, dans la lignée de son célèbre arrière-grand-père, Jules Leleu.
Déjà, bien sûr, j'ai un rapport un petit peu sentimental avec le mobilier national, de par l'histoire de ma famille, mais également en tant que directrice artistique aujourd'hui, ça a aussi un impact dans le sens où pour moi, le mobilier national est très important pour mettre en lumière la création contemporaine et pour mettre en avant l'artisanat aussi. Nos artisans sont très importants. Et par exemple, l'année dernière, j'ai livré du mobilier pour ma première ambassade au Canada. Et d'ailleurs, a été sélectionné mon fauteuil qui avait été sélectionné lors de la première campagne d'acquisition.
Et en attendant de savoir où iront les pièces récompensées cette année, dans quelles expositions aussi, vous pouvez les découvrir avec des centaines de milliers d'autres sur le site du Mobilier National.
La création contemporaine qui rentre au Mobilier National, c'est aussi une info culturelle d'Éric Chavroux à retrouver sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Cette dernière information en provenance des États-Unis, le Washington Post, propriété du multimilliardaire Jeff Bezos, a commencé à procéder aujourd'hui à un vaste plan de licenciement, alors que l'illustre journal américain est en difficulté depuis plusieurs années. Une grande partie des correspondants à l'étranger vont voir leur poste disparaître, tandis que le service des sports et les pages locales sont également particulièrement touchées, selon plusieurs médias. Le nombre total de suppressions de postes n'est pas connu dans l'immédiat. Le temps demain en France, une nouvelle perturbation arrive par l'ouest avec un ciel pluvieux de l'Aquitaine à la Bretagne. Sur la moitié nord, un ciel gris et maussade. Ailleurs, un temps sec et souvent ensoleillé. Les températures minimales seront contrastées de moins 1 à 3 degrés sur la façade est. Entre 4 et 12 sur les autres régions. L'après-midi, il fera entre 5 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck à la technique d'Ali Yard.